Salut à tous et bienvenue sur Variant Covers. Salut Landry.
Salut Guillaume.
Aujourd'hui, on va vous parler d'un auteur. On va vous parler de Lee Wicks et on se retrouve juste après l'introduction. Lee Wicks est né le 21 octobre 1962 dans l'état du Maine aux États-Unis. Poussé très jeune par ses grands frères à lire des comics, il y trouve un intérêt particulier dans le dessin. À l'âge de 17 ans, victime d'un grave accident de voiture, il perd un rein et doit abandonner son autre passion, le football. Il se consacre donc complètement au dessin et décide quelques temps plus tard de partir à la Portland School of Art où il y passe une année. En 1983, il intègre la prestigieuse Joe Kubert School, mais agacé par ses conditions de vie étudiante et la difficulté du cursus, il n'y reste également qu'un an. Il décide alors d'envoyer son travail à divers éditeurs et en 1986, il publie chez Eclipse, aux côtés de son ami Tom Field, son premier travail professionnel, Friends Don't Let Friends Drive Drunk. Plus tard, il arrivera chez Marvel où il dessinera Justice avec Peter David au scénario. Il signe également un numéro et produit pendant environ un an les couvertures du comic book G.I. Joe. En 1990, il dessine Daredevil et prend ainsi la suite de Frank Miller et Dave Mazzucchelli après la mythique saga Born Again. Son travail sur Daredevil l'ancrera définitivement dans le paysage du comic book. Depuis, Lee Wicks n'a cessé d'être présent chez différents éditeurs, produisant énormément de travail comme par exemple Captain America, la mini-série Gambit, Tarzan Predator chez Dark Horse ou Batman Chronicles chez DC Comics et bien plus encore. Personnellement, son style me fait penser à une version moderne des grands illustrateurs des années 30-50, comme Alex Raymond pour la dynamique de ses cases et Alex Todd dont il puise son jeu d'ombre et son approche quasi cinématographique. De son propre aveu, Wicks puise son trait d'artiste comme John Buscema, Neil Adams, Jack Kirby et autres Joe Kubert. Lee Wicks n'est pas une star de l'industrie, il n'a globalement aucune œuvre majeure, n'a jamais vraiment été mis en avant par les éditeurs pour lesquels il travaille, mais fait partie intégrante du paysage comics, il est même une référence dans le milieu. Lee Wicks, de par son trait, s'est inspiré énormément d'artistes classiques, et il est amusant de voir à quel point il a à son tour influencé, même inconsciemment, de nombreux artistes. Je pense entre autres à Stuart Simonen ou Ron Garney. Eh bien, merci à moi-même pour l'introduction. Landry, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de Lee Wicks? Alors, Lee Wicks, tu l'as connu comment?
Alors, Lee Wicks, c'est un artiste dont on a tous plus ou moins lu des bandes dessinées quand on est amateur de comics, sans trop le savoir. Par exemple, la mini-série Gambit, je l'ai découvert là, quand tu as fait la voix off. Mais c'est intéressant parce que j'ai le Semic à la maison, j'ai l'œuvre intégrale en Semic. Et qui est sorti dans les années 90, à une époque où voilà, peut-être certains de nos auditeurs n'étaient pas nés.
C'est vrai.
Mais effectivement, on le découvre après quoi.
Ouais.
Moi, le travail qui m'a fait découvrir Lee Wicks, c'est des épisodes de Daredevil, non pas après Miller et Mazzucchelli, mais quand la série Daredevil volume 1 a été annulée, il a fait
avant Quesada.
Voilà, avant Quesada, avant le relaunch en Marvel Knight, où sur 3 épisodes ou 4 épisodes, j'ai plus le souvenir, scénarisé par Scott Lobdell, y a une espèce d'histoire qui est une déconstruction de Daredevil, tout en étant très fidèle au personnage. Et à tel point que moi, à l'époque, lecteur un peu intéressé, je me dis, mais bon, ils annulent la série, mais pourquoi ils nous mettent ça? C'est trop bon. Il n'y a pas besoin d'annuler une série quand on a des épisodes comme ça, dessinés par quelqu'un capable de vraiment faire du dessin réaliste, pointilleux, avec surtout, moi, ce qui me plaît beaucoup chez Lee Wicks, des proportions correctes des personnages. Ouais. Ce sont pas des malabars musclés comme parfois on les dessine, on représente des super-héros. Il a fait beaucoup de super-héros.
Il fait des personnages normaux, quoi.
Ouais, humains. Une des dernières productions où je l'ai vu passer, c'est des épisodes d'une mini-série Lois et Clark d'il y a un an ou deux pour réintroduire dans l'univers DC le vrai Superman, entre guillemets, pas celui du relaunch de 2011. Et nous expliquer en gros que Lois et Clark véritable menait une vie cachée avec un enfant et que malgré tout Superman il se débrouillait pour quand même filer un petit coup de main à l'humanité quand il y avait besoin. Et tout ça est dessiné de manière extrêmement réaliste. C'est un Superman auquel on a envie de croire, quoi.
Ouais, ouais.
C'est ça qui est intéressant. C'est, j'ai envie de croire au Daredevil de Lee Wicks, comme j'ai envie de croire en son Superman, comme finalement son Gambit à l'époque, ben, je l'avais trouvé super. Mm. Parce que pour une fois, Gambit, en tant que personnage des X-Men, était traité de manière correcte. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a un vrai traitement de l'image.
C'est,
voilà.
C'est un peu iné. Ouais, c'est, alors, c'est, pour moi, c'est. En fait, ça fait très pulp, quoi. C'est très cinématographique. Enfin, pas forcément pulp, mais tu sais, époque un petit peu.
C'est ça, oui.
À la fois rétro et moderne. Et moi, ça me plaît vraiment. Tu vois, à la.
Bah,
arrivé bientôt à la quarantaine, ça me plaît vraiment.
Le dessinateur de Rocketeer, je trouve, avait une approche comme ça.
Ouais.
D'ailleurs, c'est un peu la même école de.
Ouais.
C'est un peu la même école de pensée. Et c'est vrai que c'est. À l'heure actuelle, c'est très frais. En termes de publication de comics book, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de dessinateurs qui aujourd'hui lorgnent vers une esthétique manga, ce qui est très très bien, ou alors vers des esthétiques un peu plus cartoon ou plus exagérées sur le plan musculaire. Et c'est vrai qu'arriver à faire des personnages semi-réalistes ou réalistes dans la production actuelle, c'est pas évident.
Comics, quoi.
Voilà, et complètement comics, c'est pas mal. Après, le problème de je pense, avec Lee Wicks, c'est que c'est un dessinateur vraiment de mini-séries ou de fillers, c'est-à-dire des épisodes quand l'artiste officiel d'une série ne peut pas faire 3-4 numéros, Lee Wicks donne un petit coup de main et le travail est constant du coup.
Ouais.
Mais ça n'a jamais été un auteur de séries sur la longue durée. On ne peut pas dire Lee Wicks, il a signé un run de 25 numéros.
Je ne suis même pas sûr, alors je ne connais pas le monsieur, mais je ne suis même pas sûr que ça l'intéresse finalement. Je pense qu'il est bien, moi, comme ça. Et puis, Lee Wicks, c'est quand même quelqu'un... tout le monde le connaît dans le métier. Et
c'est un dessinateur qui a commencé, je pense, à une des époques très difficiles de Marvel.
Ouais.
C'est-à-dire l'époque où Marvel produisait du G.I. Joe, du Transformer, des épisodes Star Wars. Bon, c'est culte aujourd'hui, mais en même temps... Enfin, je veux dire, c'était des BD... Enfin, ça n'avait pas une grande prétention. Hein. L'idée, c'était de vendre un produit, jouer ou autre chose. Et donc, quelque part, arriver à signer des couvertures et à finalement donner le ton sur une série comme G.I. Joe, par exemple, c'est pas évident.
Ouais.
C'est pas évident parce qu'il y a des tas de contrôles qualité derrière où tu fais pas n'importe quoi avec les personnages.
Exactement.
Et c'est en ça qu'il est très très fort. C'est-à-dire qu'il dessine sans dénaturer.
Ouais, voilà.
Il dénature pas.
Il a des illustrations. Moi, je pense à son Batman Chronicles aussi. Où,
ouais.
Pareil, en fait, il arrive à ancrer dans le réalisme. Même si, bon, Batman, c'est peut-être le rôle le plus réaliste, entre guillemets, qu'on puisse avoir. Mais il arrive quand même à donner ce ton réaliste très polar noir, tu vois, un peu comme je l'ai dit, comme Alex Toth, ce que faisait Alex Toth.
Voilà.
Moi, je ne m'en lasse jamais de voir ce qu'il fait, en fait, Lee Wicks. Et je pense que pour nos jeunes lecteurs, ou même pour ceux qui veulent se mettre un petit peu au dessin, je pense que suivre un peu son exemple, étudier un petit peu
Ce qu'il a produit.
Ce qu'il a produit, c'est très très intéressant pour ceux qui veulent commencer à dessiner.
Mais alors par contre, bon courage parce que il y a beaucoup de choses qui sont plus publiées. Enfin,
ouais.
Heureusement qu'il y a Internet de nos jours.
Ouais.
Mais beaucoup de choses.
Étudier vraiment toutes ces poses et toutes ces illustrations, c'est vraiment super intéressant. Et encore une fois, pour moi, c'est une sorte de dieu du comics. Qu'on ne voit jamais, mais qui est omniprésent en fait dans le subconscient. Tu vois
En fait, ce sont des dessinateurs qui sont vraiment utiles dans la mesure où, comme je disais, le filler reste. Ça peut paraître idiot, mais les productions sont faites de manière quasi industrielle. Mmh. Et donc, quelque part, la vraie difficulté pour les éditeurs comme Marvel, DC, mais même des éditeurs plus mineurs, quelque part, c'est qu'une série qui sort sur 12 numéros par an, le dessinateur ne pourra peut-être pas faire les 12 numéros par an. Il pourra peut-être en faire 8. Il pourra peut-être n'en faire que 8 ou 6. Et il faut trouver des dessinateurs capables, au pied levé, d'entrer dans la série sans dénaturer ce qui a été fait avant ni après. Et là, des gars comme Lee Wicks, leur force, justement, elle est là. C'est que leur trait est impeccable, les proportions sont respectées, ça ne choque pas. Donc, on peut passer d'épisodes dessinés par Jim Lee ou quelqu'un d'autre, pas dans les années 90, à du Lee Wicks sans trop de difficultés, puis revenir ensuite avec du Jim Lee.
Ouais.
Ça ne choquait pas.
Et c'est un petit peu ce dessin passe-partout.
Voilà. Mais c'est des artistes fillers, ça, ces artistes fillers. Alors parfois, malheureusement, des gars comme Lévy qui sont pas disponibles ou ne veulent pas le faire ou ne sont pas. Et ça donne des catastrophes industrielles où, pendant 2-3 épisodes, une série, lui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus mon dessinateur. C'est... Bon, Lee Wicks, il arrivait, avec son style très particulier, malgré tout, à conserver la cohérence d'une série, et ça c'est quelque chose de très très utile dans le comics book depuis toujours. C'est une des grosses difficultés de trouver des artistes capables de faire ça, parce qu'il faut à mon avis beaucoup d'humilité pour entrer après le travail d'un autre qui est souvent une superstar, et puis d'être capable quand même de prolonger l'effet de ce travail là pour qu'il n'y ait pas de baisse de vente. C'est de l'industrie, hein. Pour qu'il n'y ait pas une baisse de vente, disant c'est plus dessinateur donc je me casse. Enfin, il y a des lecteurs qui réagissent comme
c'est totalement ce qu'il a avoué quand il a pris la suite de Daredevil de Miller et Mazzucchelli après Born Again, qui est quand même une saga.
Il faut passer après ça,
avec Peter David. Ils ont décidé en fait de totalement suivre ce qu'avaient fait Miller et Mazzucchelli, et d'aller dans la continuité de ce qu'ils avaient fait. Ils ne font pas comme ils font maintenant, à chaque fois qu'il y a une équipe créative, ils renversent la table de thé, comme on dit.
Voilà, c'est ça.
Là, non, ça a continué, et nous a donné quelques numéros. Ça
et là encore, la grande, enfin, passer encore une fois, on l'aura répété, passer après un génie comme Frank Miller au dessin, ou au scénario, et Mazzucchelli qui est... Honnêtement, signé un de ses plus beaux jobs, on va dire, dans le comics, on va dire, officiel, pas ND. Hein. C'est, voilà, il faut pas dire
que Peter David, c'est pas un manche non plus.
Non, bien sûr.
Mais voilà, et sachez aussi que dans l'industrie, ces gens-là, des gens comme Lee Wicks, on peut penser à d'autres artistes, alors j'ai pas vraiment d'exemple à donner là, mais,
non,
mais ils sont nécessaires en fait, tout simplement pour suivre les séries.
Je pense à un artiste que tu aimes beaucoup, John Romita Jr. Ouais. Il est arrivé de faire des fillers,
bien sûr,
d'arriver sur pour 3-4 numéros pour une série. C'est pas, je pense que c'est pas simple, parce qu'il y a un vrai travail d'ego à faire là-dessus, dire bon, bah, c'est pas moi qui dirige la série actuellement, c'est pas moi qui donne le temps. Et
surtout, il faut s'adapter à une série quand on sait le rythme de travail des dessinateurs de comics.
Ça va très très vite. Il ne faut pas oublier que c'est un art, c'est un art industriel où il faut produire 12 numéros par an, voire des fois plus.
Des fois plus.
Parce que maintenant, Marvel est sur certaines séries à 18 numéros par an, c'est-à-dire grosso modo un numéro toutes les 3 semaines.
Et un relaunch tous les 2 fois par an.
Un relaunch tous les 6 mois à peu près. Non, on exagère, tous les 1 an à peu près, un an et demi. Mais bon, il n'empêche que les dessinateurs fiables comme Lee Wicks sont indispensables à l'industrie. On ne les connaît pas, et je pense que c'est un peu pour ça que nous faisons cette émission là aussi. C'est voilà, il y a les superstars et il y a ces gens-là qui œuvrent dans l'ombre. Vous les avez rencontrés si vous lisez des BD depuis longtemps. Vous ne les connaissez peut-être pas si vous êtes un jeune lecteur, mais c'est pas grave, on a tous été jeunes lecteurs un jour. Mais c'est une maladie qui soigne très bien avec le temps. Mais ces gens-là font que tous les mois, vos BD sortent.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Et lisez des BD, achetez des BD, allez chez votre vendeur de comics.
Tout à fait.
Demandez-lui du Lee Wicks. Et je pense qu'il vous le sortira avec plaisir, parce que Lee Wicks, il est très apprécié dans le milieu.
Voilà,
c'est tout ce qu'on avait à dire sur Lee Wicks.
Non, ben oui, c'est ça.
Allez, on vous dit à bientôt.
À bientôt.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. On vous dit à très bientôt. À plus. Ciao.